16e rencontre François Rabelais avec donc Guy Ferré, hein, juste à une date ultérieure. Et ces rencontres ont pour thème gastronomie au pluriel pour tous, point d'interrogation. Et là, nous sommes dans le cadre d'une émission sur Radio Campus Tours dont le thème est bien manger. Qu'est-ce que ça veut dire pour un étudiant ? Et pour en parler avec moi, Laurine Gaubert, étudiante en master culture et patrimoine de l'alimentation. Bonjour Laurine.
Bonjour.
Et Jennifer Cochou-Meillot, directrice de l'organisation des moyens et responsable de la résidence hôtel de l'alternance, association Jeunesse et Habitat, c'est rue Bernard Palissy. Bonjour Jennifer Cochou-Meillot.
Bonjour.
Donc les Halles de Rabelais, c'est une association qui vient en aide aux étudiants en précarité alimentaire, donc qui distribue des aides alimentaires, des colis d'urgence. Mesdames, tout d'abord, est-ce que vous aimeriez réagir à cet enregistrement ? Qu'est-ce que vous aimeriez en dire ?
Oui, bah c'est parti. J'aurais dit peut-être que déjà, moi, en tant qu'étudiante, je trouve que c'est une initiative vraiment, vraiment très positive pour tous les étudiants, en fait, d'une manière générale, de l'université de Tours, même si je pense que c'est peut-être un peu compliqué pour certains de se rendre un peu jusqu'à Grandmont, qui est quand même, il faut le noter, un site qui est extérieur au centre-ville, même si c'est quand même le plus grand site de l'ensemble universitaire, donc c'est celui qui concentre le plus d'étudiants. À partir de là... Oui, c'est un peu le seul, entre guillemets, point négatif, parce que c'est vraiment une initiative essentielle, j'ai envie de dire, à la survie de certains étudiants qui ont vraiment de gros soucis. Il y a des problèmes de logement, que ce soit à Tours ou partout en France, des problèmes d'approvisionnement de la part de beaucoup, beaucoup d'étudiants, ne serait-ce que pour tout ce qui est dit, en fait, hein, dans l'enregistrement, donc problème d'accès à la nourriture ou même à des produits d'hygiène, tout simplement. Donc, et le fait en plus que ce soit des étudiants d'origine étrangère qui le mettent en place montre à quel point c'est une nécessité, parce qu'ils le disent eux-mêmes, ils sont passés par là et ils s'aperçoivent à quel point c'est important. Donc, se demander même si c'est pas une nécessité de passer par la précarité étudiante pour s'apercevoir à quel point c'est compliqué. Je sais pas, aller jusqu'à dire ça, je pense pas que tout le monde soit non plus dénué de compassion, mais enfin.
Jennifer Cochou-Meillot.
Oui, ben, du coup, nous, de notre côté, enfin, sur la précarité alimentaire, forcément, c'est quelque chose qu'on côtoie un peu, puisqu'on on accueille dans nos résidences et dans nos logements à peu près 300 jeunes. Alors, on n'est pas que sur un public étudiant, néanmoins, on est sur un public 16-30 ans qui peut être confronté un peu à ces mêmes difficultés. Déjà, réussir à se loger, à payer... une redevance ou un loyer, c'est déjà pas mal. Et puis, du coup, avoir encore un peu de sous derrière pour pouvoir s'alimenter, c'est encore autre chose. Donc, nous, on le vit au quotidien. Notre personnel socio-éducatif, nos accompagnatrices sociales, elles travaillent ça régulièrement avec l'ensemble de nos jeunes logés, mais pas que, parce qu'on accompagne aussi 1000 jeunes par an dans leur recherche de logement. Mais quand on les accompagne dans la recherche de logement, forcément, on étudie le budget, on voit avec eux tout un tas de points autour du budget, et du coup, l'alimentation rentre dedans. Donc, on travaille, hein, on oriente des jeunes hein, vers des associations, vers d'autres types d'associations que celles-ci, mais ça pourrait être une nouvelle corde à notre arc pour orienter des étudiants qui seraient en précarité alimentaire. Et puis, on est en mesure aussi, nous, de notre côté, sur travailler sur ce sujet et puis d'apporter... quelques petites solutions à nos résidents.
Alors, Laurine Gaubert, quand on est étudiante en master culture et patrimoine de l'alimentation, donc voilà, vous avez un intérêt manifeste pour le manger. Qu'est-ce que ça vous évoque, précarité alimentaire ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ?
Déjà, peut-être commencer en précisant que même si on est effectivement en master alimentation, ça ne veut pas dire qu'on ne rencontre pas nécessairement les mêmes problématiques que d'autres étudiants. Donc, même si on a un intérêt pour l'alimentation, peut-être que, et encore, dans la promotion, ce n'est pas forcément le cas, mais certains d'entre nous ont plus facilement tendance à cuisiner, mais voilà, vous voyez, ce n'est pas une généralité. Finalement, le fait d'être en alimentation, je ne pense pas que ça... apporte un grand changement vis-à-vis du rapport qu'on a à l'alimentation dans la vie quotidienne, en tout cas. Et ensuite, pour parler des questions de précarité étudiante, toujours concernant l'alimentation, je dirais que un étudiant qui rencontre ce genre de grosses difficultés, que ce soit un étudiant ou même une personne professionnelle, travaillant après, hein, aurait à ce moment-là un seul objectif, ce serait celui de ne plus avoir faim. Et on ne parle pas du tout des questions de confort, c'est-à-dire de dépenser sans compter au moment où on fait les courses, et ne pas regarder, ou plus exactement choisir avec un regard plus appétissant, c'est peut-être pas le bon terme, en tout cas avec son envie, plus qu'avec son porte-monnaie, choisir les denrées de cette façon-là, plutôt, voilà, les personnes qui ont des difficultés d'approvisionnement n'en sont pas là. Et c'est un problème, je crois, dans un premier temps, d'un point de vue psychologique, parce que à partir du moment où on n'a pas à se soucier de choses aussi essentielles que l'alimentation, on a la tête pour se concentrer sur autre chose. Et pour revenir au point de vue étudiant cette fois-ci, dans les études, c'est quand même primordial.
Donc ça veut dire, enfin, ce que vous nous expliquez, Laurine Gobert, c'est que le fait d'avoir cette urgence, en fait, cette peur de soucier simplement, entre guillemets, de manger, ça a un impact sur tous les champs de votre activité, enfin de l'activité, en tout cas, ça atteint tous les autres domaines. C'est-à-dire que la précarité, quand elle est alimentaire, souvent, elle n'est pas que alimentaire, elle atteint d'autres domaines.
À mon sens, oui. Après, j'ai la chance depuis ces deux dernières années d'avoir un certain confort, donc je ne rencontre pas ces problèmes-là, mais oui, tout à fait. Je pense que être bien nourri et puis également bien logé, dormir correctement, avoir suffisamment d'espace pour travailler, ne serait-ce que sur un bureau qui soit à la bonne taille, ce genre de choses sont des éléments qui sont vraiment essentiels à tout le reste, effectivement. Même si on a besoin de travailler à côté, déjà, si on est assuré d'avoir un logement convenable et une alimentation correcte, je dis pas que c'est quand même facile, mais c'est moins difficile, je veux dire, on peut mettre son énergie ailleurs, effectivement.
Voilà, on entend souvent parler de temps de cerveau disponible, mais peut-être que quand tout l'espace mental est occupé à se nourrir, à se loger, en effet, c'est plus difficile pour se concentrer sur ses études, peut-être ?
Oui, je pense que c'est effectivement plus compliqué.
Jennifer Cochou-Meillo, quel retour vous avez des jeunes que vous accompagnez au foyer de jeunes travailleurs ? Dans les jeunes qui ont des problèmes peut-être pour s'alimenter, comment vous les accompagnez ?
Alors, c'est vrai que nous, on accompagne, donc on loge des jeunes 16-30 ans, donc la plupart, en grande majorité, hein, on doit être sur 70% de jeunes qui sont en apprentissage, donc en termes de ressources, on n'est pas sur la même chose que des étudiants. Néanmoins, ils sont aussi confrontés à cette précarité alimentaire, et pas que alimentaire d'abord. On leur assure le toit ou on les accompagne en fait dans leur recherche de logement, mais bon, après c'est pas le tout, c'est déjà pas mal de savoir où dormir, d'avoir chaud, du chauffage. On l'entendait, hein, dans votre reportage, certains n'avaient pas le chauffage, ont fait le choix d'avoir un logement sans chauffage parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Voilà, donc ça c'est une des premières choses. Après ça s'arrête pas là, c'est oui, avec quelles ressources on a pour manger. En fait, on est dans les besoins primaires, hein, déjà à assouvir, les besoins fondamentaux. Donc nous, de notre côté, on a sur site un restaurant associatif qui fonctionne et le midi et le soir, donc pas que pour nos résidents, mais aussi pour nos résidents. Et via ce restaurant, en fait, les résidents, dans le fait qu'ils habitent sur cette résidence, ont un forfait repas et donc ont la possibilité de fréquenter notre restaurant, ce qui leur assure globalement des repas équilibrés, plutôt de qualité, et au moins ils sont sûrs d'avoir, s'ils gèrent bien un peu leur forfait, d'avoir à manger un peu tous les jours de la semaine, au moins un repas chaud et équilibré, quoi. Donc à ce niveau-là, c'est une première réponse que nous, on apporte. Après, je vous disais aussi qu'on a du personnel socio-éducatif sur site et qui accompagne nos jeunes, quelles que soient les résidences. Et donc, on a aussi les moyens de débloquer des aides un peu comme le feraient des assistantes sociales hein, qu'on peut avoir sur les résidences universitaires ou à l'université ou dans d'autres endroits. Et donc, il y a des aides qui peuvent être débloquées pour pouvoir manger. Et puis, nous, l'association a fait le choix aussi d'avoir un fonds d'aide pour les jeunes, alors pour de multiples raisons, mais qui débloque très régulièrement des sommes d'argent pour que les jeunes puissent faire leurs courses sur les week-ends ou puissent payer leur repas dans notre restaurant.
Quelle stratégie on peut mettre en place, Laurine Gobert, quand on est un étudiant avec un budget limité, pour réussir à manger convenablement ?
Alors, stratégie, c'est, je pense que c'est compliqué déjà, même en voulant mettre en place des stratégies. Je dirais que la première chose à faire, mais encore une fois, c'est une question de, d'esprit libre, hein, c'est apprendre à cuisiner si on n'a pas déjà l'habitude de le faire. Par exemple, personnellement, j'ai eu une grosse difficulté pendant un moment parce que j'étais dans une résidence étudiante qui ne proposait pas de frigo. Donc, pour faire des plats à l'avance, c'était compliqué avant d'apprendre à cuisiner. Je pouvais pas stocker finalement au frais des choses qui auraient dû l'être. Donc, ben, on se débrouille un peu, on fait du camping et on s'en sort quand même. Peut-être aussi s'alimenter différemment. C'est un peu compliqué à mettre en place comme stratégie, parce que tout le monde a des habitudes alimentaires, mais ça reste une habitude, il faut être capable d'en changer, c'est pas toujours évident, mais s'adapter, je dirais, si je devais peut-être donner une première stratégie, ce serait s'adapter aux ressources qui sont à disposition en matière de cuisine. Donc si on a un frigo congélateur, même s'il est tout petit, on peut se permettre des choses qui soient, par exemple, toutes prêtes pour nous faire gagner du temps. Si ce n'est pas le cas, il faut peut-être apprendre à manger des choses plus crues, enfin, davantage de fruits, finalement, qui se cuisent un peu moins, ou de légumes crus comme de la salade. C'est pas toujours très confortable, effectivement. ou s'arranger comme on peut. La deuxième stratégie, voilà, c'est ce que je disais, ce serait de cuisiner des plats à l'avance dès qu'on a un peu de temps libre pour essayer d'éviter d'avoir les yeux toujours sur l'écran ou autre chose. Mais encore une fois, c'est pas toujours possible pour tout le monde. Et en dernier recours, là vraiment, à part vraiment solliciter de l'aide de copains qui ont un peu plus de moyens parce que vraiment ça devient trop compliqué à gérer. Après, dans ce dernier recours-là, il y a la question aussi, pour certains peut-être, de la honte. C'est ben voilà, moi j'ai pas de sous. C'est vrai qu'en France, c'est culturellement un problème de pas avoir de moyens. On n'aime pas trop en parler. Et puis évidemment, quand je dis solliciter de l'aide d'un copain, ça peut aussi être tout ce qui est banque populaire, resto du cœur, parce que ce sont des personnes, des étudiants qui ont tout à fait le droit, légitimement. Et encore une fois, il n'y a pas de honte à avoir, à pas pouvoir se nourrir. Au contraire, il faut arriver à dépasser ça. Encore une fois, voilà, on est à la radio, on discute. C'est pas forcément évident à mettre en place. Mais je pense que le message le plus important, c'est de se dire ou de faire comprendre que c'est pas une honte de pas avoir beaucoup de moyens. Par contre, c'est un vrai problème et il y a des personnes qui sont là pour y remédier.
Est-ce que vous pensez que cette honte, entre guillemets, hein, en tout cas cette peur d'être jugée négativement parce qu'on n'a pas de moyens, ça sous-évalue le nombre de personnes en précarité alimentaire?
J'en aurais aucune idée. En réfléchissant un petit peu, j'en suis pas si certaine. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ou ne serait-ce qu'avec des initiatives d'étudiants à étudiants comme Léal de Rabelais, il y a quand même peut-être un peu plus d'étudiants qui se manifestent et qui du coup manifestent leur situation. Peut-être que pour des personnes qui ne sont plus étudiantes, c'est encore un souci et qu'on sous-évalue encore ce chiffre-là. Mais là, je n'ai pas d'enquête, je n'ai pas de chiffres, je n'ai aucune preuve. C'est juste une réflexion.
Et alors, sur l'idée de cuisiner des plats à l'avance, il reste le choix des produits aussi. Quand on a un budget limité, qu'est-ce qu'on peut choisir comme produit ?
Oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Alors, pour donner un exemple concret, ce que je faisais, c'est que souvent je me rendais dans des magasins type, sans donner de marque, mais type Lidl par exemple, pas celui-là spécialement, mais qui vendent des produits dans lesquels on peut trouver des produits moins chers que sur des grandes surfaces et qui permettent justement voilà, de limiter son budget On peut apprendre également à cuisiner, pas forcément des choses très compliquées, mais à mélanger par exemple du riz, des pâtes, mais avec des légumes, ou à varier vraiment les préparations, sans parler de sauces déjà prêtes, mais d'associer par exemple, si on veut limiter la viande, en ce moment en plus on en entend beaucoup parler, donc ça peut être une piste à creuser, mais d'associer des céréales et des légumineuses, ça permet encore une fois de restreindre le budget et de préparer des espèces de mélanges déjà tout prêts, je sais pas, du riz et des lentilles, on voit aussi beaucoup du... Et c'est vrai, hein, de la semoule et des pois chiches. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est mélanger souvent des pois chiches avec de l'huile d'olive, par exemple, si c'est possible pour certains, pour faire une espèce de pâte qu'on peut associer à des salades, à plein de choses différentes. Et voilà, et d'avoir ces bases-là qui sont pas forcément très très chères à l'achat et à la fabrication. Ça aide un petit peu. Chose à faire aussi, mais que je n'ai jamais faite, par contre, j'ai jamais pris le temps de faire, c'est de voir sur les marchés. Donc en général à Tours, il y en a le mercredi et le samedi, justement au Hall, et d'arriver à la fin donc des marchés autour de midi 13h, là où les vendeurs essaient de se débarrasser, ou en tout cas de ont des ristournes très importantes sur les produits qu'ils essayent de vendre, tout simplement parce que il faut que leur stock soit écoulé. Et là, on peut avoir des choses, sinon gratuites, au moins à des prix beaucoup plus bas. Mais comme je n'ai jamais fait, je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que ce serait un mauvais témoignage. Voilà pour le choix des produits. C'est vrai qu'on ne peut pas non plus toujours se permettre des choses de grande qualité, mais je pense que l'essentiel est d'avoir bien conscience des besoins, c'est-à-dire céréales, protéines, légumes, et prendre le temps de faire ses courses en conséquence. S'il y a besoin de moins de viande, et on essaye de faire en sorte d'en acheter moins pour pouvoir s'offrir des choses un peu plus en plus grande quantité, mais un peu plus, peut-être un peu plus de pâtes ou un peu plus de légumes, ou voilà.
Est-ce que vous aimeriez réagir, Jennifer Cochumeillo, à ce que dit Laurine Gobert?
Oui. En fait, je rejoins un peu Laurine sur le fait que dès qu'il y a un petit peu de ressources, hein, dès qu'on n'est plus dans l'idée de se dire « j'ai rien du tout, il faut que je trouve à manger, mais j'ai un peu de sous, je peux aller acheter des choses », la première question, c'est aussi de savoir cuisiner. De savoir quoi en faire. En fait, là, on est dans plus le savoir-faire, parce qu'on voit bien que pour certains, ça n'a pas été acquis durant l'enfance, en famille, ou des choses comme ça, ou on est aussi sur des jeunes qui peuvent avoir une culture alimentaire différente, et c'est compliqué aussi de s'y retrouver quand on a d'autres références, et de trouver du coup des produits à un coût abordable. Du coup, c'est vrai que nous, dans l'association, certes, on loge les jeunes, mais on a aussi un volet éducatif, et notamment sur ce sujet. On organise avec notre animatrice socio-éducative régulièrement, en fait, des ateliers cuisine. On fait intervenir à une formation qui vient avec l'objectif, en fait, de cuisiner avec les résidents à partir de produits frais, de qualité, pas cher. Et c'est l'idée cuisiner bon et pas cher. Donc ça, c'est une première. Nous, c'est un premier volet, en tout cas, qu'on développe. Et puis, je reviens à notre restaurant associatif, mais lui aussi, il a ce rôle-là, en fait, de donner une culture alimentaire, puisque tout ce qui est proposé dans notre restaurant, on est à 80% de produits frais, des produits locaux et de saison au maximum. Donc, ça leur permet quand même d'avoir un repas équilibré de produits de qualité. Laurine parlait de la viande qu'on doit restreindre, mais néanmoins, il faut en manger un peu de temps en temps. Et du coup, c'est vrai que via ce restaurant, pour des tarifs vraiment abordables, ils peuvent avoir un menu complet à 5 euros avec entrée, plat, dessert, en étant vraiment sur des produits de qualité, quoi. Voilà.
Il y a peut-être aussi des produits mal aimés. Je pense par exemple aux sardines. C'est pas quelque chose peut-être que les jeunes vont aller acheter en premier lieu. Pourtant, je pense que ça peut être un aliment intéressant.
Oui, si je peux réagir moi de mon côté. Je pense qu'effectivement, il y a des produits qui sont... C'est pas tant qu'ils sont mal aimés, je pense qu'ils sont mal connus. Peut-être pas connu du tout en termes de goût, gustativement, et puis pas connu dans qu'est-ce qu'on en fait. Parce que c'est vrai que si on prend l'exemple des sardines, c'est un produit qui est pas très cher. On peut en faire pas mal de choses, mais si on ne sait pas et qu'on est dans son logement avec ses sardines, bah ça peut être compliqué en fait de faire quelque chose qui est plutôt sympa, qui a du goût et qui change de l'ordinaire. Donc je crois vraiment qu'il y a un rôle au niveau de l'éducatif en fait alimentaire.
Voilà, donc mesdames, je pense que vous mettez en avant, à mon avis déjà. Trois choses limitantes au-delà du budget, c'est d'une part l'éducation alimentaire, un problème de stockage et un problème de mise en œuvre, en fait, c'est-à-dire d'avoir un équipement minimum pour fabriquer des choses. Est-ce que ça vous semble juste ?
Oui, moi de mon côté, oui, ça me semble tout à fait juste. Si on n'a pas le matériel, déjà, c'est, j'ai envie de dire, c'est mal barré. On ne peut pas faire grand-chose. Nous, c'est vrai que dans nos résidences, alors la plupart sont équipées de kitchenettes, mais sur la résidence qui est rue Bernard Palissy, on est sur des chambres meublées. Donc, il n'y a pas de kitchenette dans le logement, mais il y a des cuisines d'étage. Et après, pour pallier un peu à ce problème d'équipement, parce que bah, ça a un coût aussi, c'est pas tout ça, mais il faut aller les acheter, les casseroles, les poêles, les ustensiles. Donc nous, on a constitué en fait des kits de vaisselle qu'on vend à un prix vraiment petit. Sur une de nos résidences, on peut même le mettre en location à vraiment un tarif défiant toute concurrence. Et puis, je le disais, on a des systèmes d'aide qui peuvent financer en fait ces premiers achats. À partir de là, après, effectivement, tous les logements, enfin, si les logements, il n'y a pas de frigo, ça peut être aussi compliqué. J'entendais Laurine qui disait qu'il y avait un logement sans frigo. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, c'est presque plus concevable. Hein. Ça l'était il y a une vingtaine d'années dans toutes les résidences du Crous, mais je pense que les choses ont plutôt pas trop mal évolué. En tout cas, il faut être un minima équipé.
Laurine ?
Oui, effectivement, je parlais de la résidence, c'est pas une généralité. Là, pour le coup, j'étais tombée vraiment dans une résidence complètement insalubre. Mais donc, du point de vue du stockage, c'était compliqué. Et c'est vrai que c'est un problème. Effectivement, l'acquisition d'équipements, elle est aussi difficile. Peut-être un peu moins, je dirais, pour les ustensiles, parce qu'il y a des possibilités d'en trouver à des prix pas excessifs dans des magasins, des ventes d'occasion, finalement. On peut trouver des choses pour 50 centimes, vous pouvez trouver des assiettes, donc il n'en faut pas forcément beaucoup, ou pour 1 euro, vous pouvez avoir une casserole. Alors, encore une fois, on n'est pas dans le top du luxe, hein, bien entendu, mais voilà, dans un premier temps, le temps de s'adapter un petit peu à sa nouvelle vie d'étudiant, surtout pour les étudiants qui arrivent en première année de licence, ça peut être une piste. Il y a beaucoup aussi, pour ce qui est de l'acquisition de matériel comme ça, alors, je pense notamment à des réseaux sociaux, mais sur Internet aussi, des applications ou des sites qui proposent des échanges ou voire même des dons de matériel. Voilà, tout simplement parce que les personnes s'en débarrassent suite à plein de raisons, des déménagements, ou elles ont fait une meilleure acquisition. Et à ce moment-là, ça vaut peut-être un peu le coup d'aller jeter un coup d'œil, mais le problème, c'est que ce sont des solutions qui demandent du temps. Et quand on arrive dans un environnement qu'on ne connaît pas, avec toutes les difficultés que ça engendre et avec aussi tout l'aspect universitaire, hein, donc le travail, les recherches en bibliothèque, etc., on n'a peut-être pas toujours ce temps à consacrer. Et le problème, il est là aussi. Il faut se faire une éducation, ça prend du temps, on ne l'a pas, et on tourne un peu en rond. Je suis tout à fait d'accord sur les questions d'éducation à l'alimentation. Il y a ça aussi. Certains étudiants ont parfois besoin d'apprendre à cuisiner tout simplement parce que c'est pas quelque chose qu'ils ont acquis. C'est vrai aussi.
Est-ce que ça pourrait être une idée de, par exemple, que dans les fameuses semaines de rentrée que propose l'université de Tours, de faire une action vraiment centrée sur l'alimentation, justement, sur l'éducation alimentaire, peut-être une bourse aux casseroles ou quelque chose comme ça, est-ce que ça pourrait être quelque chose d'intéressant ?
Oui, tout à fait, oui. Je pense que ça aiderait pas mal d'étudiants et peut-être même plus que des étudiants si on ouvrait à plus de personnes. Oui, tout à fait.
Peut-être qu'on pourrait raisonner en tranche d'âge, alors Jennifer Cochou-Meillot, puisque vous nous expliquiez que votre public a entre 16 et 30 ans. Peu ou prou, c'est l'âge des étudiants, en fait, une majeure partie des étudiants de l'université de Tours. Est-ce que cette action potentielle à la rentrée universitaire pourrait être liée à votre public?
Oui. Oui, carrément. Je pense que finalement, c'est vraiment, oui, plus la tranche d'âge. Alors, je le disais, effectivement, les étudiants, eux, en termes de ressources, s'il n'y a pas les bourses ou s'il n'y a pas les parents, après, voilà, il faut trouver un petit boulot et d'un coup, on devient aussi finalement un travailleur, quoi, un travailleur étudiant, mais on est aussi travailleur. Nous, notre public, il est apprenti, mais on sait bien que les ressources des apprentis, c'est pas toujours non plus très, très haut. Hein. Quand on est mineur, on peut être autour de 370 euros de ressources. Donc, il faut quand même vivre avec ça. Donc oui, une action de ce type serait très intéressante pour la tranche d'âge des 16-30 ans. Avec ce volet, je pense, Coulorine a l'air d'avoir pas mal de petites astuces, mais ce côté plus astucieux, plus que sur le côté très nutritionnel, rappel... des règles nutritionnelles ou tout ça, ça serait plus les bons plans, en fait. Les bons plans à Tours pour s'équiper, pour trouver des produits pas trop chers. Enfin, tout ça, ça serait intéressant, ouais.
Voilà, parce qu'on peut penser que le fameux 5 fruits et légumes par jour, c'est quand même très compliqué quand on a un budget limité. Donc, en effet, peut-être plus axé sur des conseils pratiques, des choses pratiques. Et alors, quelque chose... qui me vient en tête, c'est l'idée de fabriquer des bocaux. Parce que ça, c'est quelque chose peut-être qui n'est pas très, très connu des 16-30 ans, mais l'art de fabriquer des bocaux, de conserver des aliments en bocaux, parce que je pense qu'on peut mettre à peu près tout dans un bocal, hein, que ce soit des gâteaux, on peut faire de la soupe, on peut faire des plats de viande, des légumes, de la sauce. Et donc là... ça pourrait être peut-être intéressant d'inventer un atelier de confection de bocaux. Hein. Ça s'est fait par exemple dans les pensions de famille du réseau Fondation Abbé Pierre. Ils avaient fait dans le cadre d'un événement qui s'appelle Une place à table, donc il y a un festival gastronomique autour de la précarité alimentaire, justement. Ils avaient fait intervenir des cuisiniers qui avaient appris aux résidents des pensions de famille à faire des bocaux. Donc peut-être que c'est une idée qui pourrait être proposée pour vos publics, étudiants et apprentis.
Oui, carrément, moi je le note. Je le note pour qu'on essaie de développer quelque chose autour de ça. C'est vrai qu'on met plutôt en avant ce côté aujourd'hui savoir-faire culinaire, mais peut-être qu'il faut qu'on aille aussi sur autre chose et être un peu sur les astuces, comment conserver. Voilà, ça, c'est une très bonne idée.
Ça fait écho à ce que vous expliquiez, Laurine, l'idée d'aller sur les marchés, à la fin des marchés, pour acheter moins cher ou pour récupérer des denrées, parce que j'imagine qu'on ne choisit pas toujours ce qui reste en fin de marché. Donc si on a 3 kilos de chou-fleur, peut-être que l'idée de cuisiner collectivement à plusieurs étudiants une énorme marmite de chou-fleur et d'en faire des bocaux, ça pourrait être intéressant.
Oui, tout à fait. Après, il reste après le côté un peu social de la cuisine, parce qu'on a eu des témoignages, et moi-même, quand j'étais en résidence étudiante, d'étudiants qui préfèrent cuisiner tout seul. Du coup, voilà, c'est toujours un peu compliqué à mettre en place ce travail, ces relations entre étudiants qui sont toujours un peu timides quand ils connaissent pas, mais dans la mesure où ça peut être une bande de copains, hein, tout simplement, qui cuisinent ensemble, c'est une très bonne idée, tout à fait.
Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que vous dites, oui, mais c'est pas parce qu'on est fauché qu'on a forcément envie de cuisiner avec les autres. Donc ça, c'est intéressant aussi comme réalité. Qu'est-ce que vous aimeriez en dire ?
Oui, c'est vrai, je suis pas sûre que ce soit le fait d'être fauché, parce que quand on est en résidence étudiante, on est plus ou moins prendre avec des pincettes, mais tous logés un peu à la même enseigne, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas des ressources extraordinaires non plus quand il vit en résidence étudiante, c'est pas non plus pas que des personnes en difficulté, il y a un peu de tout, mais voilà. Je sais pas trop quoi penser de la relation entre étudiants dans les résidences parce que chacun est un petit peu occupé à ses affaires, qu'il s'agisse de difficultés ou tout simplement de travail universitaire. Voilà. Il y a certains projets qui ont été montés par des associations pour justement inciter les étudiants dans les résidences à cuisiner ensemble ou en tout cas à venir voir des ateliers pour apprendre un peu, sinon à cuisiner, à utiliser leurs denrées, à optimiser les quantités pour avoir à manger sur la semaine. Mais ça n'avait pas eu un grand succès. Voilà, je pense que justement, on revient à cette question de temps de cerveau disponible. Les gens avaient la tête à autre chose et voilà.
C'est assez marrant ce constat que fait Laurie parce qu'on n'aurait pas tout à fait le même de notre côté. On met assez souvent en place, en fait, je le disais, hein, des ateliers cuisine ou des choses autour de l'alimentation ou de la restauration. Et c'est plutôt les choses où on n'a pas besoin d'aller chercher nos résidents. Ils viennent assez facilement. Je pense à une de nos résidences qui est la résidence hôtel de l'alternance là, qui est rue du Plat d'Étain, qui accueille principalement donc des apprentis, mais des apprentis étudiants, on n'est plus sur des licences ou masters. Je crois que eux, manger ensemble, venir aux ateliers cuisine, enfin franchement, si on met pas sur nos animations la petite carotte autour de l'alimentation, en fait ça marche moins bien quoi. Ils sont hyper friands de ce côté-là. Et puis sur nos autres résidences, la rue Bernard Palissy notamment, l'atelier cuisine, c'est quelque chose qui marche très très bien. Alors peut-être à plusieurs niveaux, je ne sais pas si c'est tant le fait de cuisiner tous ensemble, mais je crois qu'il y a quand même un peu de ça. Mais il y a aussi le fait, ça fait finalement un repas gratuit aussi. Hein, c'est toujours ça d'économiser. On apprend quand même des choses plutôt sympas. Alors, peut-être que la différence, elle vient aussi du fait que nous, on a une animatrice socio-éducative et qu'elle est là pour faire le lien entre les résidents. Et donc, elle est un peu le moteur et la personne qui impulse la dynamique. Mais en tout cas, nous, c'est des choses qui marchent plutôt bien.
Ça vous semble intéressant, Laurine Gobert, cette idée d'avoir une personne en fait qui est là pour faire le lien. Est-ce que ça marcherait mieux dans une résidence universitaire s'il y avait une personne comme le décrit Jennifer Cochumeyo?
Je sais pas si ça marcherait mieux. En tout cas, c'est super de voir qu'il y a des endroits où effectivement ça fonctionne. Ça veut dire qu'on peut pas faire une généralité du manque de succès qu'il y avait eu suite au projet de ce projet donc de cuisine qui était proposé par une asso bénévole. Donc c'est très bien. Peut-être effectivement, mais ça voudrait dire que dans un premier temps, il faudrait peut-être aller chercher des étudiants pour ces résidences où il y a justement pas beaucoup de personnes intéressées. Il y a rien qui interdise que ça prenne et que ça devienne des rendez-vous hebdomadaires. qui auront un peu plus de succès. Peut-être que d'avoir une personne, effectivement, on sait le métier, de s'adresser à d'autres personnes, ça peut aider, c'est vrai.
Alors, en vous écoutant, mesdames, je pense aussi qu'il y a à l'Université de Tours des étudiants relais santé. Donc, c'est des contrats étudiants, hein, c'est des étudiants qui sont salariés sur des contrats de quelques heures pour travailler avec le service de santé universitaire sur l'accès aux soins, en fait. Donc, ils vont à la rencontre des étudiants sur différents campus. Et je me demande si ça pourrait être pertinent d'avoir des étudiants, alors pas relais alimentation, mais enfin, qui pourraient être sur le même idée de contrat étudiant, qui pourraient être chargés, en fait, de travailler sur cet axe-là. Je crois d'ailleurs que les Halles de Rabelais cherchent, ont eu une subvention CEVEC, hein, ils le disent dans le reportage, pour professionnaliser l'association, donc pour avoir finalement quelqu'un qui travaille sur ces axes-là.
C'est une parole d'étudiant à étudiant. C'est vrai qu'en général, ça passe un peu mieux parce qu'il n'y a peut-être pas de barrière, on va dire, je ne sais pas quel mot utiliser pour pas stigmatiser ou quoi que ce soit, parce que c'est pas mon but, mais un étudiant aura le même statut, globalement le même âge et les mêmes problématiques qu'un autre étudiant. Et à ce moment-là, il y a une mise à niveau qui se crée. Et voilà, il n'y a pas de différence, bien que les professionnels au SSU ou les intervenants aient parfaitement conscience de tout ça. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais je pense que dans la tête des personnes, le fait de s'adresser à un égal virtuel, parce que c'est, voilà, ça passe mieux. Donc oui, c'est une initiative et surtout, oui, une façon de développer les Aldo Rabelais qui est peut-être même nécessaire, plus que intéressante, à mon avis.
Et un lien avec le FJT, alors, pour être sur une tranche d'âge, plus que sur un public cible, Jennifer Cochou-Meillot ?
Alors, bah, oui, nous, forcément, c'est quelque chose qui serait intéressant à développer, de toute façon, parce qu'on voit bien que, globalement, là, les réponses apportées, alors, nous, on a du personnel socio-éducatif, encore une fois, sur site, qui est là pour répondre à toutes ces questions et qui est plutôt en proximité, en fait. Donc, on n'est pas tant perçus comme les personnes, je sais pas moi, comme l'assistante sociale de secteur, ou voilà, où c'est très institutionnalisé. Nous, sur site, la personne qui assure la veille sociale sur site, elle est dans leur résidence, donc c'est un peu, elle fait partie des meubles, j'ai envie de dire. Donc ils se côtoient facilement, donc il n'y a pas trop de difficultés à aller vers elle pour exprimer des difficultés. Donc c'est vrai que nous, notre fonctionnement, déjà, on prend en compte toute cette dimension. Après, je rejoins Laurine, c'est vrai que des étudiants qui parlent aux étudiants, voilà, ça amène encore autre chose, peut-être que ça libère aussi plus facilement la parole. Donc, c'est des choses à explorer et à faire avancer, oui.
Alors, vivement une réunion ultérieure avec des étudiants de ce master, peut-être les Aldo Rabelais et le FJT.
Ah oui, ça serait très intéressant de croiser nos différents mondes, nos différents publics, et puis aussi croiser nos différentes pratiques, parce que finalement, on agit tous un peu sur cette même thématique et un peu chacun de notre côté. Donc, c'est toujours bien de pouvoir fédérer, ouais.
Ça vous intéresserait, Laurine ?
Oui, tout à fait. Je pense que tous les étudiants de la promotion seraient tout à fait intéressés à l'idée de discuter un peu de tout ça. Oui, tout à fait.
Voilà, alors avis aux instances organisatrices des rencontres François Rabelais. Voilà, on réclame peut-être un atelier ou une table ronde, en tout cas une concertation plus large sur ces problématiques. Avec les étudiants, le FJT et les Aldo Rabelais. En effet, ça pourrait être intéressant. Je vois que l'heure tourne, mesdames, qu'il est déjà 9h49, je crois. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose ?
Pas spécialement. Après, peut-être juste, mais c'est le sujet des rencontres François Rabelais de cette année, mais de dire que la précarité étudiante, finalement, c'est un peu la partie... visible de l'iceberg, c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se sont mobilisés pour ça, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres personnes aussi qui ont des problèmes, notamment de logement et puis effectivement tout ce qui va avec après, hein, qui ne sont pas des étudiants et qui auraient peut-être besoin aussi de toutes ces aides-là, qui existent déjà, bien sûr, il y a des associations, tout ça, mais en plus grande quantité. Là, je fais le discours naïf de quelqu'un qui a envie de voir les choses s'améliorer, mais voilà, on a les étudiants et il faut pas oublier que c'est un échantillon dans toute la population qui rencontre ces difficultés.
Oui, moi, de mon côté, je rejoins Laurine, en fait. Je crois qu'il faut même élargir. On parle de précarité alimentaire au sens large chez les jeunes, peut-être, ou précarité chez les jeunes au sens large, parce qu'on sait que globalement, les moins de 25 ans, bah, en termes de ressources, soit ils bossent, soit il y a une bourse, ou soit il y a les parents, mais sinon, il n'y a pas comme pour les plus de 25 ans le RSA ou en tout cas des choses qui peuvent se débloquer pour eux. Oui, je pense qu'il faut plutôt élargir à une tranche d'âge et aux jeunes de façon générale. faudrait, voilà, il faut avancer dans ce sens-là, en tout cas.
Et merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps d'échanger avec moi. Merci beaucoup.
Ben merci, merci aussi pour l'invitation.
Oui, tout à fait, merci. Voilà.
Et puis à bientôt, hein, puisque
oui,
je ne désespère pas qu'on puisse faire une autre table ronde en vivant, espérons-le, avec les Halles de Rabelais et peut-être des étudiants aussi de votre formation, Laurine. Merci, mesdames.
Merci beaucoup. Première rencontre. Merci beaucoup.
Ouais. Merci, bonne journée.
Bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir. Au revoir.